Solution. Un problème extrêmement délicat. Hein. Faut faire grande attention. Là, il faut prendre des pincettes. Parce que les savants, les biologistes, sont passionnés, je dis bien, ils sont passionnés pour ce problème de l'évolution. Heureusement. Ils sont passionnés pour ce problème de l'évolution, et donc il faut faire grande attention. Je crois que la première chose qui est à faire, c'est de montrer que le problème de l'évolution est limité à la vie biologique. C'est ce que Rostand disait tout le temps, vous savez bien. Ce coup violent qu'il a fait par rapport à Teilhard. Il a dit, je ne suis pas d'accord en tant que savant. Les théologiens peuvent être d'accord, ça les regarde. Mais en tant que savant, je ne suis pas d'accord. Parce que pour Teilhard, l'évolution prend tout. Non, l'évolution est au niveau du monde biologique. Et ça, il a raison. C'est donc très important, vous voyez, parce que au niveau métaphysique, il n'y a pas d'évolution. C'est impossible qu'il y ait d'évolution au niveau métaphysique. Ça n'a pas de sens. Aucune signification. Donc, laissez le métaphysicien ne pas avoir d'évolution. Respectez que la pensée métaphysique est dans un autre ordre que l'évolution. L'évolution est au niveau de la philosophie du vivant. C'est la philosophie du vivant qui doit se poser la question, vous voyez, de l'évolution. Est-ce qu'il existe une évolution ou pas? Alors ça, on verra ça au prochain numéro, vous voyez, parce que c'est très important. C'est très important de comprendre s'il existe ou pas d'évolution. Il faut être là-dessus très précis, je crois, dans notre monde d'aujourd'hui, pour ne pas irriter la sensibilité des savants par les traditions religieuses et non pas par le philosophe. Le philosophe, lui, découvre un être nécessaire, acte pur. Il peut préciser que cet être premier est le créateur. C'est-à-dire préciser ce qu'est la création telle qu'on en parle dans les traditions religieuses. Là encore, le mot création est donné par les traditions religieuses n'est pas premièrement philosophique. Mais le philosophe doit essayer de comprendre qu'est-ce que représente cette relation entre les réalités que nous expérimentons, les réalités que nous voyons, c'est-à-dire nous-mêmes, hein, en définitive, c'est toujours l'homme, et l'homme, il est premièrement nous. C'est là où on le voit le mieux. Hein. Alors, on essaie de comprendre la relation qui existe entre nous et le Créateur, et nous essayons de comprendre dans cette perspective de sagesse que le monde créé par la sagesse de Dieu, créé par amour, a nécessairement une certaine unité. Il y a une très grande diversité, cette diversité fait partie de la beauté de l'univers, dans la mesure où cette diversité implique une certaine harmonie, et il y a une mesure qui unifie cet univers. Alors, je vous rappelais la position des anciens. C'est toujours intéressant de regarder la position d'un Platon et d'un Aristote. Le timé et le decello. Ce sont les deux grands livres qu'il faut lire un peu en parallèle du reste. Hein, si vous avez le temps. Le timé, c'est un très beau livre de Platon. C'est grand. Et c'est la cause exemplaire qui domine. Et puis le Decello d'Aristote, qui est un livre difficile à lire, mais qui est en même temps un magnifique roman philosophique, étonnant, merveilleux, où il y a beaucoup de choses à retenir et en même temps où il faut essayer de décanter tout ce qu'on doit laisser tomber, toute cette vision de la quintessence, toute cette vision du mouvement circulaire parfait et des astres qui mesurent notre univers et qui fait l'unité de notre univers. l'unité de notre univers étant la lumière, et la lumière provient comme une propriété de ces corps célestes. Le lien entre la lumière et le feu, c'est toujours important. La lumière est au-delà d'une certaine manière du feu. Le feu fait partie des quatre éléments et la lumière est au-delà. On ne dit pas que la lumière fait partie des quatre éléments. La lumière est une propriété de la quintessence. Donc la lumière est au-delà du feu. Il y a quelque chose de plus radical dans la lumière. C'est très difficile tout ça à reprendre. Alors il faut bien comprendre que c'est une perspective philosophique que nous essayons de comprendre, par où nous essayons de comprendre ce que c'est que la lumière, et en même temps toute la perspective de la science contemporaine dans cette vision sur le point de vue de la lumière. Il me semble que si nous essayons de saisir ce que représente l'unité profonde de notre univers et ce qu'il y a de plus parfait dans notre univers, parce que la mesure est nécessairement quelque chose de ce qui est plus parfait. La mesure qui donne le sens aux autres, c'est-à-dire la mesure joue le rôle de cause exemplaire. La cause exemplaire permet d'unifier et permet de maintenir un certain ordre. C'est bien le corps humain, le corps vivant, le corps qui est le lieu où demeure l'esprit. Le philosophe peut parler de l'esprit dans l'analyse du vivant et de l'homme. Le philosophe doit découvrir ce que c'est que le nous, ce que c'est que l'intelligence et ce que c'est que la volonté. Donc le philosophe a une vision du corps humain comme le corps vivant par excellence. Je n'ai pas d'expérience de vivant plus parfait que le vivant homme. En raison de sa très grande complexité et sa très grande unité. Et donc, je crois bien que nous pouvons affirmer, j'ai dit je crois bien parce que c'est toujours très difficile, un jugement de sagesse, ça doit être à la fois quelque chose d'ultime, qui maintient toute la complexité des autres choses et en même temps qui essaie de saisir ce qu'il y a de plus de premier. Dans le monde physique, le corps humain apparaît comme ce qu'il y a de premier. Autrement dit, tout l'univers physique, philosophiquement parlant, est pour le corps humain. Et alors, ça a immense avantage de dire ça, c'est que tout ce que nous avions souligné, vous savez, j'avais commencé par vous rappeler ce que disait Freud à propos justement de la relativité progressive par rapport à l'homme. Comment l'homme était dégradé de cette dignité que regardaient les pères de l'Église. Les pères de l'Église voyant l'homme comme le sommet de tout l'univers. On disait la Terre n'est plus au centre du monde, le point de vue de la vie humaine, nous allons le voir, dépend de la vie animale et donc ne doit plus être conçu comme ayant sa dignité tout à fait spéciale et puis qu'en définitive l'esprit n'est plus vu que d'un point de vue psychologique. Donc l'homme n'est plus ce qu'était dans la vision des anciens. Ce que dit Freud, Freud ne dit pas ça dans un jugement de sagesse, c'est ce qui lui manque. Or, nous devons aboutir à un jugement de sagesse au point de vue philosophique, parce que Freud ne voit pas ce que c'est que l'esprit. S'il ne voit pas ce que c'est que l'esprit, il ne peut pas comprendre que le corps de l'homme a une dignité unique. La dignité unique du corps de l'homme, ce n'est pas le point de vue biologique, ce n'est pas le point de vue psychologique. La dignité unique du corps de l'homme, c'est qu'il est la maison de l'esprit. C'est la maison de l'esprit. Il est la demeure de l'esprit. Et il y a cette unité entre l'esprit et la matière dans l'homme qui est quelque chose de tout à fait unique. Et je ne peux pas comprendre parfaitement ce que c'est que l'homme au point de vue philosophique si je ne vais pas jusque-là pour essayer de saisir à la fois sa complexité, sa plus grande complexité. La plus grande complexité, elle est dans ce vivant, et sa plus grande unité. Et c'est en raison de cette complexité et de cette unité que je peux dire que le corps de l'homme est la mesure de tout notre monde physique, de tout notre univers physique. Alors il faudrait évidemment regarder le lien entre le corps de l'homme et la lumière. C'est très important, ça. C'est plus difficile. Cette perspective qu'on trouve toujours chez les anciens, en voyant comment la vision, le regard, qui est fait pour la lumière, je saisis la lumière par ma vision. Comme je saisis la lumière par la vision, il y a donc, par rapport à la vision, une parenté avec la lumière. Puisque celui qui reçoit et celui qui est reçu ont toujours une parenté. Donc il y a bien une parenté profonde entre la vision et la lumière. Cette vision n'est pas seulement une vision d'ordre biologique ou psychologique. Elle implique quelque chose aussi de spirituel, puisque j'ai conscience de la lumière. Je crois que je peux reprendre la parole d'Aristote. Nous avons la joie de voir. Ça, c'est tellement grec. Nous avons la joie de voir. Et regardez tous les tragiques grecs, hein, quand ils montrent que être aveugle, c'est le plus grand mal. De ne plus avoir le point de vue de la vision et de rester dans les ténèbres. Donc, nous avons conscience que notre vision nous apparente à la lumière. Et cette conscience d'être liée à la lumière permet à l'homme d'être l'unité et le sommet de tout notre univers. Et en définitive, si j'ai conscience de cette lumière, si je peux réfléchir sur cette lumière et la penser, je dépasse la lumière physique pour découvrir qu'il y a en moi une lumière intérieure et une lumière spirituelle. Et la fameuse analogie de la lumière physique et la lumière intérieure. Il faut aller jusque-là pour comprendre comment le corps de l'homme est vraiment le réceptacle de la lumière physique et qu'il possède en lui quelque chose de plus, la lumière spirituelle. Quelle analogie existe-t-il entre la lumière physique et la lumière intérieure? Ça, c'est aussi une question importante pour comprendre comment le corps de l'homme et sommet de tout notre monde physique. La lumière physique, elle reste sensible. La lumière intérieure de l'intelligence, elle n'est plus liée au sensible. Elle est spirituelle. L'esprit apparaît d'abord dans la lumière. C'est une lumière aimante, ce n'est pas une lumière métallique, ce n'est pas une lumière séparée de l'amour, c'est une lumière aimante. Et l'esprit, c'est justement la lumière liée à l'amour. Et le corps de l'homme est le lieu de ce dépassement. Le corps de l'homme n'explique pas l'esprit. mais il est le lieu de ce dépassement. Autrement dit, l'homme est, comme disaient les néoplatoniciens, et je crois qu'il faut aller jusque-là, là ils ont tout à fait raison quand ils disent que le corps, que l'homme est l'horizon du monde visible et du monde invisible. Et vraiment, ce qu'il y a de particulier dans l'homme, c'est qu'il est l'horizon des deux. Et c'est en ce sens-là qu'il est lié au Créateur, parce que le Créateur est au-delà du monde physique, il en est la source. Et l'homme est lié à ce monde physique dans sa complexité, il est lié à l'esprit. Et vous voyez que c'est la lumière qui fait le lien entre le monde visible et le monde invisible. C'est vraiment le point de vue de la lumière qui fait le passage entre les deux. Alors évidemment, comprenons bien, quand je parle de lumière visible, de lumière invisible, ce n'est pas équivoque. C'est une notion analogique. Il y a quelque chose de part entre les deux. Est-ce une analogie propre ou une analogie métaphorique? Ça, c'est un problème extrêmement difficile. Et peut-être que c'est les deux. Tout dépend comment on le regarde. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit les deux. Ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, vous voyez, dans l'ordre de la lumière, on puisse regarder à la fois la lumière comme analogie propre et la lumière comme analogie métaphorique. Et que ce soit encore l'homme qui soit le lieu de cette rencontre des deux. Alors vous allez me dire, c'est très équivoque de dire ça. Alors au fond, en dernier lieu, vous retombez dans l'équivocité. Non. Vous voyez la différence entre l'analogie propre et l'analogie métaphorique? Parce que c'est à propos de la lumière, je crois, que c'est là où on le comprend le mieux. L'analogie propre, c'est lorsqu'on établit une relation, une proportion entre des qualités qui, dans leur diversité, impliquent une unité. C'est propre de l'analogie. C'est au-delà de la diversité de saisir l'unité. Quelque chose de commun. L'analogie métaphorique, c'est lorsque ce quelque chose de commun regarde uniquement une propriété. Regarde quelque chose de second. C'est une analogie métaphorique, alors elle ne touche pas ce qu'il y a de plus profond. L'analogie propre regarde ce qu'il y a de plus profond dans les deux qualités et dans leur diversité et leur unité. Tandis qu'au contraire, l'analogie métaphorique est au niveau des propriétés. Et donc ne touche pas ce qu'il y a de plus profond. Il y a quelque chose qui reste extérieur. C'est pour ça que l'analogie métaphorique regarde toujours le point de vue sensible. Et c'est le sensible, visible, et puis l'autre invisible. Alors, la lumière physique est visible et sensible, c'est bien évident. C'est ce qu'il y a de plus visible et de plus sensible. C'est ce par quoi tout le reste est visible. Donc, ça reste toujours sensible. Sous ce point de vue-là, on peut dire que la lumière physique, par rapport à la lumière de l'esprit, c'est métaphorique. Parce que l'un est sensible, l'autre est spirituel. Et donc, c'est dans l'ordre de la manifestation qu'il y a quelque chose de pareil. C'est que la lumière physique permet la manifestation et la lumière invisible réalise la manifestation. Donc, c'est par leur propriété qu'on les rejoint. Je crois qu'on peut peut-être aller un peu plus loin et découvrir que entre les deux, il y a quelque chose qui dépasse le point de vue purement métaphorique. Vous voyez, on serait devant l'analogie métaphorique la plus parfaite. Alors, est-ce que l'analogie métaphorique la plus parfaite ne rejoint-elle pas l'analogie propre? Je pose la question, hein, parce que c'est très difficile. n'oserais pas le trancher d'une façon absolue. Question à laquelle il faut tout le temps revenir. C'est très difficile. Saint Thomas traite de l'analogie de la lumière physique et de la lumière invisible comme si c'était une analogie propre. Regardez le début de son commentaire de l'évangile de Saint Jean. C'est peut-être le lieu où c'est le mieux exprimé. Alors, comme c'est un livre traduit par la maison, vous pouvez le regarder facilement. N'est-ce pas ? N'oubliez jamais que le commentaire de saint Thomas sur l'évangile de saint Jean, vous devez y revenir tout le temps. Pas seulement le lire une fois, mais le relire et le relire pour vous imprégner de saint Jean et de saint Thomas et de la mixture des deux. Et c'est cette mixture des deux qui fait peut-être aussi une analogie métaphorique qui est une analogie propre. Alors ça fait quelque chose d'assez particulier quand vous passez le passage des deux. Bien, dans le début de l'évangile de saint Jean, on comprend très bien le Verbe et la lumière. Quand il est dit le Verbe et la lumière, et quand saint Thomas montre que la connaissance intellectuelle est lumière, et quand saint Thomas parle de la lumière physique. Alors quand je dis l'intelligence est lumière, quand votre intelligence est très éveillée, elle est lumière. Quand elle est moins éveillée, elle commence à être crépuscule, et alors la ténèbre l'emporte. Mais quand elle est très éveillée, elle est lumière. Alors quand je dis que l'intelligence est lumière, et quand je parle de la lumière physique, voyez bien, le rapport qu'il y a entre les deux. Spontanément, analogie métaphorique, c'est sûr. Puisque d'un côté c'est visible, de l'autre côté c'est invisible. Donc, métaphorique. Mais si je creuse un peu plus, je vois que je suis peut-être en face de l'analogie métaphorique la plus subtile qui soit. Puisque la lumière physique, la lumière sensible, c'est l'ultime pointe du sensible. Et l'ultime pointe du sensible rejoint le point de vue invisible, l'horizon. L'homme est l'horizon du monde physique et du monde invisible. Et la lumière est l'horizon du monde visible et du monde invisible. Alors quand on dit l'horizon, l'immense avantage de l'horizon, c'est que c'est un mot symbolique qui ne précise pas trop. C'est l'avantage des néoplatoniciens, c'est qu'il reste dans un symbole. Et alors on croit tout comprendre grâce au symbole, on ne comprend rien du tout. Mais ça fait rien, ça aide, ça maintient quelque chose. De dire que l'homme est l'horizon du monde visible et invisible. De dire que la lumière est le passage de la métaphore, de l'analogie métaphorique à l'analogie propre. Il faut y réfléchir à ça, parce qu'il y a quelque chose de très particulier justement dans la lumière. Je crois qu'on peut dire que c'est un peu les deux. Parce que la lumière exprime ce qu'il y a de plus subtil dans le sensible. C'est le sommet du sensible. Et ça touche le point de vue de la lumière intelligible, de l'intelligence. C'est curieux, hein ? C'est au moins très curieux de comprendre que l'homme, par sa vision, ce qu'avait dit métaphoriquement Platon, l'homme, par sa vision, est source de lumière. Regarder quelqu'un, c'est projeter sur lui de la lumière. Vous le savez bien. Quand on le regarde d'une certaine manière, évidemment, un regard dur, un regard plein de tendresse et d'affection, un regard appelle le sourire, un regard peut appeler les pleurs. Tout le regard, c'est très mystérieux tout ça. Et c'est aussi très important, c'est le regard, comme disait un vieux père maître hein, que j'ai connu, et qui disait, les liens qui existent dans une communauté, ce n'est pas la parole qui va le plus loin, c'est le regard. Et c'est très vrai. Une communauté peut être très silencieuse, et grâce au silence, il y a des éclairs. Par le regard. C'est quelque chose de très très profond. Quand on parle de la modestie des regards, c'est pas rien non plus. La possibilité de fermer les volets et de dire non. Pas ce regard indiscret. C'est très curieux. Il faudrait faire ici, vous voyez, au point de vue sagesse, dans un regard de sagesse, ce que représente le regard et comment le regard va être ce qui va traduire la contemplation. Le dernier mot sur la contemplation, c'est de dire que c'est un regard. C'est quand même curieux. Et c'est le regard qui dit le mieux ce que c'est que la contemplation. C'est un regard vers Dieu. Un regard affectif et aimant vers Dieu. Comme on a un regard affectif et tendre vis-à-vis d'une personne qu'on aime. On a un regard qui éveille son amour, qui appelle son amour, qui d'une certaine manière le ressuscite. On ressuscite quelqu'un par le regard. Au contraire, on l'aplatit. Ton regard est dur. Ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ton regard est dur. Hein, tu as un regard dur qui m'accable. Vous voyez, le corps de l'homme par le regard. Il y a une philosophie de sagesse du regard qui est un peu, vous voyez, le sommet du corps de l'homme qui lie le visible et l'invisible. Parce que c'est très bien de dire qu'il est l'horizon du monde physique, du monde visible et du monde invisible, mais il faut voir où est ce sommet, c'est le regard. Le regard fait le passage du visible à l'invisible. Vous regardez et vous fermez les yeux. Et quand vous fermez les yeux, c'est pour avoir un regard intérieur. Normalement, si vous restez vivant. Parce qu'on peut fermer les yeux parce qu'on meurt. Mais alors ça, c'est autre chose. À ce moment-là, c'est l'arrêt du corps de l'homme comme mesure de l'univers. Ce n'est pas le cadavre qui est la mesure de l'univers. Et qui fait l'unité, hein. C'est le corps vivant. Et c'est le corps vivant porteur de l'esprit. Et donc c'est le corps vivant par le regard. Par le regard, il peut dominer, il peut s'unir. Il est à la fois ce qui s'ouvre à l'univers et ce qui domine l'univers. C'est le regard. Et deux regards qui se croisent font que deux êtres s'unissent dans la même lumière, dans le même regard, et profondément continuent de s'unir dans ce regard intérieur. Vous voyez, je crois qu'il faut essayer de saisir cela dans une lumière sagesse. Philosophiquement, c'est là où je saisis l'unité. Là, c'est important. Comprendre ce point de vue-là. C'est le regard qui domine tout l'univers. C'est curieux. Vous voyez, l'homme par le regard saisit l'horizon. L'homme par le regard saisit l'unité de l'univers. C'est le regard qui fait l'unité de l'univers. Alors, si je saisis comment ce regard est lié à la lumière, je peux dire que c'est la rencontre du regard de l'homme et de l'univers qui fait l'unité, et c'est le regard des hommes entre eux qui va permettre entre les hommes une certaine unité. L'unité du regard fait qu'il y a quelque chose qui permet l'unité. Parce que c'est vrai, quand je dis que le corps de l'homme, le corps vivant de l'homme, est l'unité de notre monde physique, la mesure de notre monde physique, vous voyez tout de suite l'objection. ce que j'avais terminé la dernière fois en disant cela. Mais on est nombreux. Alors, c'est pas plus mon corps que celui du voisin. Alors, est-ce que l'unité de l'univers, c'est le corps le plus âgé qui existe dans le monde d'aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le dernier né? Il y a toujours un dernier né. Alors, est-ce que c'est celui qui vient de naître? Ou c'est celui, au contraire, qui touche l'extrémité? Parce qu'ils sont multiples. Dans la multiplicité, ils font l'unité. C'est pas la multiplicité des corps humains qui font l'unité de l'univers, parce que je reste en multiple. Alors qu'est-ce qui va faire l'unité des corps? C'est très mystérieux, ça, au point de vue de l'unité du monde. Si vraiment c'est le corps humain, alors je peux dire que c'est le plus parfait. Oui, mais le plus parfait. Le corps est parfait dans le regard. Je crois que c'est ça qui est le plus parfait dans le corps humain. Au point de vue toujours, hein. Je reste au niveau physique et au niveau spirituel, puisque c'est la lumière physique et la lumière spirituelle qui s'unissent. C'est donc dans le regard de l'homme à l'égard d'un autre homme, le regard de l'être humain à l'égard d'un autre être humain qui fait l'unité. Ce n'est pas une question de vieillesse ou de jeunesse. Bien que nous sommes dans le physique où le temps joue. Et il est évident qu'un corps d'un vieillard n'est pas le même que le corps d'un enfant. Mais le corps d'un vieillard est-il plus habité par l'esprit que le corps d'un enfant? Je crois. Normalement, ça devrait être comme ça. Si le vieillard vieillit bien... Si le vieillard vieillit bien, le corps du vieillard est plus habité par l'esprit que le corps d'un tout petit enfant. Le corps d'un tout petit enfant, c'est l'espérance du corps du vieillard. Mais le corps du vieillard peut mal vivre. La matière peut être victorieuse de l'esprit. Et quand la matière est victorieuse de l'esprit, nous avons alors à ce moment-là des déchéances. C'est la matière qui l'emporte. Et quand la matière l'emporte, au bout d'un certain temps, c'est la mort. Tandis que la victoire de l'esprit sur la matière maintient que le corps habité par l'esprit, et c'est le plus habité par l'esprit. Vous voyez comment nous pouvons essayer de nous orienter un peu vers ce point de vue qui est difficile. C'est pas étonnant que... Au fond, je ne peux pas affirmer d'une façon absolue. Je vois la multiplicité des corps humains, la multiplicité des êtres humains. Je vois ce qui fait leur unité, le regard. Et ce qui fait aussi leur division. Les êtres humains se divisent par le regard. Et ils s'unissent par le regard. Donc le lieu de l'unité de la division. Vous voyez, cette vision d'Empédocle qu'on retrouve ici, c'est très curieux. Alors il ne le disait pas du tout de cette façon-là. Mais au fond, il avait pressenti qu'il y avait quand même quelque chose qui pouvait faire l'unité et la division du monde physique par le point de vue de l'amour et le point de vue de la haine. Un regard haineux, un regard d'amour. Un regard d'amour fait l'unité, un regard haineux fait la division. Et je crois que je peux l'assumer, ce qu'Empédocle dit. Il y a quelque chose de juste. La division et l'unité. Dans le monde physique, hein, c'est curieux que le monde physique appelle le monde de l'esprit. De fait, c'est ce qui existe. Alors il faudrait se poser la question, si un monde physique laissé à lui-même et uniquement physique aurait un sens. Monde physique, purement physique. Philosophiquement parlant, il n'a pas de sens. La très curieux. Oui, il a une certaine intelligibilité, c'est sûr, mais au fond, parce que c'est le monde de la quantité. Et le monde de la quantité appelle le point de vue du divisible. C'est pour ça qu'un monde physique, purement physique, sans l'être humain, n'aurait pas de sens. Ça montre bien que l'homme est au sommet de tout ce monde physique. Et que son corps fait le lien entre le monde physique et le monde spirituel. Il ne faut pas aller trop vite en affirmant cela, mais je crois que nous pouvons le dire. Alors, il y a peut-être quelque chose qu'il faut encore voir et préciser. C'est que entre le monde physique et le monde de l'esprit, il y a la vie. Toujours. Nous retrouvons la grande hiérarchie donnée par les néoplatoniciens que nous devons maintenir ici. Le monde visible, le monde invisible. Donc les deux aspects. Et le corps humain fait le lien entre les deux. Lumière visible, lumière. Et mon regard est à la fois celui qui capte le monde de la lumière visible et le regard intérieur qui demande de dépassement. Et alors, entre les deux, le point de vue du vivant. C'est le vivant qui fait le lien entre les deux. Et le corps humain est le lieu de la vie. Le réceptacle de la vie. Alors, c'est peut-être cela aussi que nous devons regarder. Alors, avant de voir ça, je réponds à la question. Si maintenant je me place d'un point de vue de croyant, je peux dire que tout ce que je viens de dire au point de vue sagesse philosophique va s'achever dans le corps du Christ. Alors là, je peux dire que d'une certaine manière, seule la foi peut le dire, et seule la foi donne vraiment la clé de voûte de tout notre monde physique. Parce que là, je peux affirmer que le corps du Christ est unique. Et qu'il est le maxime talé, donc le sommet, le plus parfait, le maxime talé, la mesure suprême de tous les corps. Le corps du Christ, c'est le corps des corps. Hein. Vous voyez bien, c'est celui qui qualitativement est le plus habité par l'esprit. Le corps du Christ est mesure extrinsèque de notre univers. Et le corps de Marie est mesure immanente de notre univers. Et alors c'est assez beau de voir au point de vue proprement de la foi que vous avez la mesure extrinsèque, donc la mesure transcendante, c'est le corps du Christ, et la mesure immanente, c'est le corps de Marie. Le corps de Marie demeure le plus parfait de tous les corps humains, de toutes les créatures, et le corps du Christ, parce que c'est le corps d'un Dieu, fait le lien entre le visible, notre univers, et l'invisible, qui est la très sainte Trinité. Ce qu'il y a de plus invisible, l'invisible de l'invisible, c'est la très sainte Trinité. Ça, c'est sûr. La lumière de la lumière. Et donc l'invisible de l'invisible. C'est le mystère de la très sainte Trinité. C'est la vie de l'invisible. Et bien le corps du Christ fait le lien entre les deux. Il est le tabernacle de la très sainte Trinité et il est lié à notre univers physique. Et parce qu'il est uni substantiellement au Verbe de Dieu, à la lumière, que nous retrouvons la lumière. c'est la lumière. Alors encore, la lumière ici, pris analogiquement d'une manière toute différente, mais c'est encore la lumière qui fait le lien entre le visible et l'invisible. Qui fait le lien du visible, l'univers, et le plus invisible de tout l'invisible, la très sainte Trinité. Et c'est le Verbe de Dieu qui fait le lien. Donc c'est la lumière. C'est très étonnant de voir ça, parce que ça fait partie d'une harmonie très très grande. C'est une confirmation, si vous voulez. L'ordre surnaturel peut être, pour le philosophe, une confirmation que c'est bien le point de vue de la lumière qui fait toujours le lien entre le point de vue visible et invisible. Et c'est cette lumière qui est dans l'homme et qui fait le lien. Alors le Verbe de Dieu fait le lien entre ce qu'il y a de le maximum de l'invisible, la très sainte Trinité, et le point de vue de l'univers physique. C'est la mesure extrinsèque. Vous savez bien, on peut parler de deux sortes de mesures. La mesure transcendante, c'est la mesure extrinsèque. Le Christ, parce qu'il est Dieu, est au-delà de notre univers, puisqu'il est le Créateur. Il fait partie de notre univers, tout en étant le Créateur de notre univers. Évidemment, là, vous commencez à trembler. Puisqu'il est créateur, donc il est au-delà, et il est créature d'une certaine manière. Il fait partie de cet univers. Ça, c'est la mesure extrinsèque de notre univers, la mesure transcendante. Tandis qu'il y a une mesure immanente de notre univers, c'est-à-dire de celle qui est tout à fait créature, qui est entièrement créature, Marie. Marie fait partie de notre univers. Tandis que je ne peux pas dire au sens absolu, vous voyez, que le Christ est partie de notre univers. Non, il est la mesure transcendante de notre univers. Et cependant, par son corps, il fait partie de notre univers. Par son corps. Et en tant que Verbe, il est au-delà. Vous avez donc la mesure immanente, Marie, la mesure transcendante. Ce qui montre bien, vous voyez, là, c'est la confirmation au point de vue théologique que le corps de l'homme est bien la mesure de l'univers. Philosophiquement, je m'approche, je suis un peu gêné parce que je reste dans la multiplicité. Et c'est vrai, je vois la multiplicité des corps, je dis oui, il y a une certaine unité qui peut se faire par le regard et par la lumière, mais c'est quand même la multiplicité. Le théologien a ce privilège qu'il voit l'unité. L'unité du monde physique. Et l'unité du monde physique, c'est le corps de Marie. C'est la clé de voûte de tout notre univers. Mesure immanente. Et cette mesure immanente est tout entière relative à une mesure transcendante, qui est le corps du Christ. Cette mesure immanente est source du corps du Christ. Et elle est mesurée par le Christ lui-même. Et alors là, c'est très très grand de comprendre cela. Tant que Jésus était sur la terre, le corps du Christ était relatif à Marie. Par le mystère de la résurrection, le corps de Marie devient relatif au corps du Christ. Donc la transcendance de la mesure n'est parfaitement réalisée que dans le mystère de la gloire. Alors c'est le corps glorifié. Mais le corps glorifié, c'est un corps lumineux. C'est la lumière du Verbe qui s'empare totalement de la matière et qui fait que cette matière n'a plus aucune opacité. Ça, c'est la gloire. Et la gloire, c'est le triomphe de l'amour, mais un triomphe lumineux de l'amour sur la matière. Vous voyez comment tout cela se tient profondément, et que la recherche philosophique que nous faisons dans un ordre de sagesse pour comprendre ce qui est l'unité de notre univers ne conclut pas d'une façon absolue. Ça, c'est la sagesse qui doit reconnaître que dans ce domaine du physique, on n'arrive pas à l'unité parfaite. Dans le monde physique, la multiplicité, j'allais dire, l'emporte toujours. La complexité l'emporte toujours. Parce que c'est un monde corruptible. Et c'est ce que les anciens auraient voulu, que le monde physique ne soit pas corruptible. Et c'est pour ça qu'ils avaient inventé la quintessence. Nous inventons Marie. Et c'est ça qui est merveilleux. Au fond, le problème de la quintessence, c'est un appel au corps de Marie et plus profondément au corps du Christ. C'est quand même très curieux cela. C'est pour que, au-delà de la multiplicité, on retrouve l'unité et on découvre l'unité. Et autrement, le philosophe complète. C'est là où le philosophe doit rester dans l'humilité, vous voyez. Le monde physique oblige le philosophe de rester dans l'humilité. Il ne peut pas trancher. Il est dans l'ordre de la disposition. Il s'oriente vers. Il dit ça doit être cela, c'est le corps de l'homme. Mais le corps de l'homme est multiple. Et parce que le corps de l'homme est multiple, alors comment va-t-il conclure? Il ne peut pas conclure. Il dira le regard. Parce que ce qu'il y a de plus spirituel, de plus unifiant dans le corps de l'homme, c'est le regard. Et le regard permet l'unité dans la diversité, oui. Mais la diversité demeure. Puisque dans le regard, il y a un regard d'amour et un regard d'haine, de haine. Et donc c'est un regard de haine et un regard d'amour, il y a un regard qui unifie, un regard qui divise. Et s'il divise, ben, il n'arrive pas à l'unité. Donc le philosophe doit conclure que, au point de vue jugement de sagesse, il ne veut pas arriver à découvrir l'unité de notre monde physique. Il s'y dispose, il s'y oriente. Alors si ce philosophe est croyant, si le philosophe par sa foi peut dépasser son jugement de sagesse purement philosophique et découvrir qu'il y a, grâce à la révélation, cette unité qui se fait dans le corps de Marie et dans le corps du Christ. Alors vous voyez, là au point de vue théologique, la grandeur du mystère de la maternité divine de Marie. Puisque c'est par la maternité que la mesure immanente et la mesure transcendante sont liées. Et vous voyez là, le métaxu divin, la médiation divine, puisque c'est la médiation par la maternité. Toute mère est médiatrice. La médiation entre la mesure immanente et la mesure transcendante.